personal, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care.
Nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop et c'est un mort tout en oracle.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic qui flingue de glace.
Les flics, la police c'est le vice.
Et par des keufs se font caner, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans pare poil.
Moi seul et unique.
Et à tous, vous êtes bien sur le 89.5 Radio Dio, la radio qui va à volo. Il est 12:10, vous êtes en train d'écouter l'émission du numéro 0, l'émission pour une bonne hygiène buccale. Ici, on vous propose de desserrer les dents, ouvrir sa bouche et surtout de ne pas garder la langue dans sa poche. Le numéro 0 est un média alternatif et participatif de la région stéphanoise. Il existe sous plusieurs formes, un site internet où tout le monde peut publier des articles classés par rubrique et par mots-clés. L'adresse, c'est le numéro 0 tout attaché sans accent, point l'autre, tout attaché aussi, point net, le numéro 0, point l'autre, point net. Il y a aussi une version papier gratuite, disponible dans divers lieux publics, qui rassemble les articles parus sur le site depuis la dernière version. Numéro 0, c'est aussi, vous vous en serez rendu compte, une émission radio, un jeudi sur deux, de midi à 13h, rediffusée le jour même de 17 à 18 sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. Et pour nos fidèles auditrices et auditeurs de la Creuse et du reste de l'univers, c'est en direct sur internet www.radiodio.org. Et numéro 0, c'est l'émission du chaos. Bref, du désordre, info en vrac sur Saint-Té, ses environs, scrogneux et blabla, retour sur les luttes, propagande et subversion en tout genre. Pour tout vous dire, on ne prétend pas à l'objectivité. Nous préférons prendre parti et même pire, nous avons choisi notre camp, celui des barricades et celui des relouses. Alors, le numéro 0, c'est l'occasion de cracher dans la soupe, de baver dans un micro, alors ramène tes glaviots. Aujourd'hui, au sommaire, on va commencer par parler de la radio numérique sous toutes ses coutures. Qu'est-ce que c'est que ça et quand est-ce que ça arrive et qu'est-ce qui va nous arriver, oui. On continuera avec quelques brèves et quelques annonces. Juste avant de finir, on parlera de ce qui s'est passé en Vichy au début de cette semaine et on finira par un espèce de mini-agenda. Voilà.
C'est parti. Le poste à transistor est à l'honneur car le goût de la musique ravage les foules.
La radio numérique terrestre, vous en avez entendu parler ? C'est ce qui vise à remplacer la bande FM d'ici quelques années. Sauf que cette transition met en danger toutes les radios associatives non commerciales. Vous trouverez toutes les infos et une pétition à signer sur le site radiosenlutte.free.fr.
Il y en a marre de l'idéologie marchande.
On t'entend t'entends pas.
Là, ça va ?
Eh oui.
Ouais, donc vous venez d'écouter un jingle que vous pouvez retrouver aussi sur le site Radios en Lutte. Alors en fait, c'est quoi cette histoire de numérique ? Depuis début 2008, les radios associatives, entre autres, doivent plancher sur un dossier de demande d'attribution de fréquences numériques à rendre au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En 2012, normalement, si tout va au plus mal, nous serons forcés de jeter nos transistors FM pour écouter la radio en diffusion numérique. Alors pour une radio diffusée en numérique, ça coûterait en moyenne et à l'année aux alentours de 18 000 euros. Voilà, techniquement parlant, une norme numérique a été choisie, c'est le TDMB. C'est la plus chère et c'est la plus investissable par la pub. Et pour les industriels, voici un nouveau marché à conquérir, appareils de réception, opérateurs de diffusion, etc. Bref, alors du coup, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'était parler autant qu'on peut du passage donc de la radio à l'analogique FM à la radio numérique. C'est quoi cette technologie ? Qu'est-ce que ça change pour celles et ceux qui écoutent la radio ? Qu'est-ce que ça change pour celles et ceux qui en font ? Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui, juste pendant un petit quart d'heure. Voilà.
Voilà. Donc oui, alors la radio numérique terrestre, qu'est-ce que ça va changer réellement ? Bah du coup, on se demande quels sont les avantages. Sur les avantages que celle-ci va apporter. Donc, comme la TNT là, qui a été récemment déployée en France, le principal intérêt c'est de pouvoir déployer plus de radios par fréquence, à peu près 8 radios par émetteur. C'est le principe du multiplexage. Donc, voilà, alors soi-disant c'est le grand avantage, mais le problème c'est qu'en France actuellement, il y a à peu près 30% de la population qui a accès qu'à 10 stations de radio. Et d'après le CSA, la radio numérique terrestre devrait permettre à 100% de la population d'obtenir beaucoup plus de radios, mais ce n'est pas encore fait. Le déploiement, il va attaquer à partir de l'année prochaine sur 19 grandes villes. Et ça ne va pas changer grand-chose. Et ce que ça change réellement aussi, c'est soi-disant que la qualité sonore devrait être amélioré par rapport à la radio analogique. Le choix de la norme TDMB qu'un particulier de la France en Europe, puisque les autres pays devraient a priori émettre dans une autre norme qui s'appelle le DAB. Donc ce choix a été imposé par les grandes radios comme RTL, Énergie ou Radio France, surtout par rapport à la possibilité d'émettre sur un canal des images, tout ça, parce que c'est une norme qui est conçue à la base pour la vidéo, qui n'est pas conçue à la base pour émettre du son. Donc ça a été chapeauté par les grandes radios. Et ça coûte plus cher à mettre en place, on l'a déjà dit. Alors que le DAB+, donc, qui est la norme qui va être choisie par l'Angleterre, peut-être par l'Allemagne et beaucoup d'autres pays européens, permet quant à elle une bien meilleure qualité de son. Est beaucoup moins cher à mettre en place. Même le prix des récepteurs devrait être moins cher. Donc du coup, en France, si ça passe, a priori, ça commence déjà l'année prochaine, alors que dire, les récepteurs seront plus chers qu'ailleurs en Europe. La portée ne sera pas plus grande que la radio, que la FM actuellement. Du coup, En ce qui concerne la qualité du son, y a un débat qui se pose. Par exemple, il y a Radio Canut qui a dans ses choix pour Avenir a décidé de ne pas poser sa candidature pour la radio numérique terrestre, en particulier parce qu'il disait que la qualité sonore ne sera pas meilleure. Et en effet, c'est le même débat qui se pose entre le vinyle et le CD. Donc un son analogique est beaucoup plus pur. Le son analogique, c'est le son qui passe actuellement sur la bande FM, c'est pas du son numérique. Si vous le recevez correctement, il est plus pur que le CD, il est plus naturel. Du coup, l'argument avancé par le le CSA comme quoi voilà, la radio numérique aura un meilleur son, n'est pas vrai. À partir du moment où vous captez bien une radio, le son en FM sera meilleur pour les audiophiles. Enfin voilà, donc c'était la petite présentation technique de cette avancée technologique.
Voilà, en tout cas...
on va continuer avec...
Non, tu voulais mettre un petit truc Ouais, en tout cas, donc pendant quelques années, il y a des radios associatives en France qui ont été sollicitées donc par le CSA pour expérimenter ces technologies, donc d'où ces différences, la DAB+, TDMB, machin truc. Faut savoir qu'il y a quand même pas mal de radios qui, à un moment donné, ont dit le DAB+, c'est bien, il y a une meilleure qualité, tout ça. Mais en tout cas, le choix du CSA s'est porté sur la TDMB. Et comme ce que tu disais, le TDMB, c'est une technologie qui permet d'apporter plus de données associées, donc d'images. On imagine très bien.
Ouais, parce que c'est le truc qui n'a pas été dit, c'est que ouais, du coup, le...
marche pas, c'est...
Ah, mais... Ouais, du coup, le TDMB... C'est en fait, il y a des micros qui marchent pas dans le studio. C'est les radios associatives. Du coup, on fonctionne avec deux radios, avec deux micros qui marchent. Ouais, ce qu'on a, je sais plus si on l'a dit, mais du coup, quand même, la particularité du TDMB, là, cette norme coréenne sortie un peu de nulle part, c'est que du coup, va y avoir de l'image sur le canal, en fait. L'intérêt de l'image pour les radios et pour les radios associatives, bien sûr, un peu tout le monde s'en fout. Et en gros, le gros intérêt de l'image, ce serait pour tout ce qui est diffuseur publicitaire et trucs comme ça, quoi. Le truc que je voulais dire sur le choix de cette norme, c'est que c'est vraiment une sorte de choix un peu bizarre de la part du CSA d'avoir choisi cette norme, du fait qu'en Europe, tous les autres ils sont orientés sur du coup le DAB machin, là, et que du coup on serait les seuls à avoir en France cette norme, ce qui voudrait dire qu'on aurait des postes radio spécifiques et que par exemple on pourrait pas écouter les radios des camarades allemands ou anglais et machin, et voilà quoi.
Quand j'écoute ma radio sous la douche, je me dis souvent, ça serait quand même pas mal si sur mon poste il y avait un écran avec de la pub dessus. Et il paraît qu'avec la radio numérique, ça va être possible.
Avec le passage des radios numériques, on craint beaucoup plus d'accidents à la queue de François.
Plus d'infos sur la radio numérique et pétitions à signer en soutien aux radios libres non commerciales sur radiosenlutte.free.fr.
Radiosenlutte.free.fr.
Et voilà, donc là, les petits jingles qu'on vous passe, c'est des jingles qui ont été faits par un collectif qui s'appelle Radio Libre en Lutte, je crois. On vous en parlera un peu plus. Et mais moi, pour continuer à parler... du passage des radios de la bande FM aux radios numériques, je voulais dire en fait que ça touche beaucoup plus largement à la question des radios associatives et de leur organisation. En fait, c'est pas que des questions techniques et que des questions pratiques et de qualité de son, etc. Et donc voilà, en gros, les radios associatives, elles galèrent pas mal. C'est-à-dire que, enfin, pas toutes, mais bon. Faire tourner une radio associative, c'est énormément de travail et c'est aussi énormément d'argent, surtout que les radios associatives, enfin d'abord c'était les radios libres, etc., c'est elles qui ont obtenu quand même l'ouverture de la bande FM à d'autres radios que les radios d'État dans les années 80. Et voilà, et depuis, elles se sont institutionnalisées, elles se sont pas mal professionnalisées en général, etc. Et donc, ça coûte de plus en plus d'argent, ça coûte énormément de boulot, etc. Et y a des petites équipes, assez souvent, qui centralisent tout le travail, qui centralisent toute l'organisation d'une radio, etc. Et les décisions sont prises par ces petites équipes et les... Alors, je ne sais pas si avant, c'était beaucoup plus utopique que maintenant, j'en sais rien, mais tous les bénévoles, les animateurs, les gens impliqués dans les radios, ils s'impliquent vachement moins dans les prises de décision, l'organisation générale, etc., quoi. Voilà. Et je voulais en venir à la situation de Radio Audio, donc vite fait. C'est le point de vue d'une animatrice de Radio Audio, mais en gros, Radio Audio a vécu des énormes galères depuis quelques années, en particulier financières, et est en train de sortir enfin d'un redressement judiciaire. Gérer cette radio et tous ses soucis internes, externes, financiers, etc., c'est vachement compliqué. Et résultat, l'équipe qui gère Radio Audio n'a pas encore eu le temps de poser le débat sur le passage au numérique, alors que c'est un truc assez imminent et tout. Et voilà, et donc c'était juste pour dire que ce débat, nous, en tant qu'animateurs d'une émission, on a décidé de le lancer, et les avis sont sûrement très différents, et le débat est à mener, quoi. Et c'est pas juste l'équipe qui dirige la radio qui devrait l'avoir, quoi. Ça vous concerne, vous, chers auditeurs, chères auditrices.
Tout le monde. Ouais, en tout cas, cet aspect, en tout cas, c'est le cas de beaucoup de radios, en fait. Hein. Le débat n'a pas eu trop le temps de se poser. Il s'est posé aussi la situation que le CSA a envoyé les dossiers de candidature tardivement. Ils ont demandé une réponse assez rapide. Beaucoup de radios n'ont pas saisi les termes techniques qui étaient dans le dossier. C'était un jargon assez incompréhensible. Et beaucoup de radios n'ont pas encore eu le temps de déposer leur dossier. Tu voulais dire un truc, non ?
Si, moi je voulais revenir sur ce truc quand même que... quand même, la radio numérique terrestre, pour le moment, c'est une sorte d'énorme danger, spécifiquement pour les radios associatives, quand même par rapport à la question du fric, quoi. Parce que globalement, toutes les radios associatives... sont toutes dans des situations suivant les niveaux plus ou moins précaires pour celles qui ont décidé de continuer à fonctionner sans publicité et galèrent au niveau des rangs tous les jours. Et le passage au numérique, ça représenterait des sortes de frais de fou en plus. Toi, tu as les chiffres, je crois.
Oui, alors en moyenne, c'est 18 000 euros par année et par diffusion. Voilà. Mais en fait, c'est 18 000 euros en plus de la diffusion en analogique, puisqu'en fait... le passage au numérique ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura une transition où il y aura une double diffusion en FM et en numérique. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de radios associatives qui ne pourront pas financer la double diffusion. Donc en gros, c'est un doublement du coût de diffusion. Voilà. En tout cas, ça change beaucoup de choses pour les radios, en fait. En tout cas. Qu'est-ce qui change aussi faudra aussi déjà s'équiper du matériel spécifique à la radio numérique. Alors il y a beaucoup de gens qui annoncent que ça va pas coûter si cher que ça, tout ça. Alors à mon œil, quoi, il faudra aussi se former au matériel. Financièrement parlant, il y a quelques radios associatives en tout cas qui annoncent déjà qu'elles devront licencier en fait du personnel pour pouvoir financer la double diffusion.
Et même plus. Alors, ce qui est compliqué dans cette histoire, c'est qu'en fait, les infos assez précises, c'est hyper compliqué de les avoir, apparemment, parce que même les gens qui les cherchent ont parfois du mal à avoir des infos claires. Mais il y a plusieurs personnes qui sont bien penchées sur la question et qui disent clairement qu'il y a pas mal de radios associatives qui vont crever s'il y a passage au numérique, parce qu'elles n'y feront pas face. Et en fait, en gros, c'est la compétition, c'est les radios associatives qui se portent le mieux, qui s'en sortiront, et puis... Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un des risques qui est annoncé par des personnes qui sont penchées sur la question. Quoi.
Et puis, il faut quand même ajouter que ce passage numérique, il est imposé. C'est-à-dire que les radios associatives, les radios qui diffusent en FM, elles n'ont pas le choix. Il y a une date qui est annoncée, donc 2012, c'est à peu près la fin de la diffusion en FM. À partir de là, apparemment... il n'y aura plus de radio analogique quoi, en FM. C'est vraiment imposé. Les radios, elles n'ont pas le choix.
Ouais, en gros, toutes les discussions qu'il y a eu, elles ont eu lieu entre les gros groupes de radio commerciales et le CSA. Mais, pour résumer la situation, moi, le truc que je trouve complètement fou quand même dans cette histoire de radio numérique dont j'avais pas entendu parler avant quelques temps, c'est quand même vraiment ce truc typiquement, je sais pas trop comment dire, de magouille capitaliste ou je sais pas quoi. C'est vraiment la sorte de création d'un ça arrive comme ça, et c'est la création d'un nouveau besoin et du coup d'une sorte de nouvelle économie, du coup d'un nouveau marché de fou avec des nouveaux émetteurs, avec la création d'un nouveau réseau, du coup le renouvellement de tout le parc, de tous vos tuners et machin et tout ça. Mmh. Et c'est vraiment, on a un plan business de ouf, du coup on peut imaginer ce qu'il y a derrière et les logiques qu'il peut y avoir derrière, quoi. C'est vraiment...
Ouais, ouais, une augmentation fulgurante du support publicitaire, puisque donc le choix de la norme, ça permet de beaucoup de vidéos donc associées au son. Alors on s'imagine très bien ce que les gens vont pouvoir coller sur image, comme image derrière, quoi. Voilà, il y a plein d'autres choses à dire.
Le problème aussi, quelque part, c'est que voilà, bah, c'est un problème plus général vis-à-vis de notre société, quoi. C'est-à-dire qu'en ce moment, partout on cherche à changer notre matériel, voilà, c'est un truc qui va consommer des ressources naturelles énormes à ce niveau-là, sur l'impact écologique. Alors bon, on parle tout le temps de développement durable et tout ça, et là, bah ouais, va falloir acheter des nouveaux, alors des nouveaux récepteurs, voilà, équipés avec des écrans couleur, c'est incroyable le nombre de ressources naturelles que ça consomme. Bon, c'est un problème plus général, hein, vis-à-vis, voilà, on a vu pareil avec la télé. Les gens commencent à acheter leur téléviseur dans les rues, bah, ça va être pareil avec la radio, a priori. Hein.
Et un autre truc aussi à ce sujet, c'est qu'apparemment, le prétexte pour passer au numérique, c'était que la bande FM, les ondes hertziennes et tout, c'était mauvais pour l'environnement. Donc c'est un joli prétexte avancé par l'Union européenne. Et en fait, eh ben, les ondes hertziennes, elles ne vont pas du tout disparaître et être gentiment... Enfin, si, elles vont être recyclées, en fait. Elles vont être recyclées ouais, pour l'aviation et pour la téléphonie mobile. Donc voilà, c'est encore, ne croyez pas les médias et ne croyez pas les gouvernants, ils vous disent que des conneries.
Ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de jeter nos télés dans la rue, nos vieux postes, on pourrait aller dans les magasins et directement jeter les radios numériques, en fait.
Quand j'écoute ma radio dans la voiture, je me dis souvent, ah, s'il y avait un écran sur mon autoradio, je pourrais conduire avec un œil sur la route et un œil sur la pub.
Des radios numériques, le nombre d'accidents de la route va augmenter.
Plus d'infos sur la radio numérique et pétitions à signer en soutien aux radios libres non commerciales sur radiosenlutte.free.fr.
Radiosenlutte.free.fr.
Vous êtes toujours à l'émission donc du numéro 0. On venait, on vient d'entendre Radio Gaga, Queen. Et donc on a essayé tant bien qu'on peut de parler du passage au numérique. Juste pour info, donc on a tout à l'heure on a écouté les jingles qu'on peut écouter sur le site Radios en Lutte. C'est un site de lutte des radios libres contre le passage au numérique. Alors la lutte, elle est assez diversifiée. Il y a des gens qui se proposent de prôner le financement total du passage au numérique. Il y a des radios comme Radio Canu, par exemple, qui refusent catégoriquement le passage au numérique. Et voilà. Alors pour info, pour les personnes qui peuvent y aller, par exemple, à Toulouse, le 17 novembre, il y a un rendez-vous sur les dangers du numérique avec un débat en direct sur Radio Canal Sud et une soirée avec Tombola des idées de lutte contre le numérique. Il y aura une restauration aussi, puis une table de presse. On mettra une info sur le site du numéro 0 si ça vous intéresse.
Voilà, et puis pour ce qui est de Saint-Etienne et de Radio Audio, nous on a lancé le débat et maintenant il va falloir le continuer, quoi. Parce qu'il va bien falloir se décider un jour.
Sur ces belles notes, on va continuer l'émission avec les brèves. Donc les petites brèves, on va pas commencer par du local encore une fois. Donc, parce qu'en ce moment, il y a une grosse info, vous le savez tous. Ça y est, Jésus est revenu parmi les siens. Voilà, bon, ça faisait 8 ans qu'il y avait un prophète au pouvoir en Amérique. Et voilà, qu'il y avait, d'après ses propres propos, pour mission divine de lutter contre les forces du mal. Et là, le peuple américain s'est enfin décidé à élire le nouveau Messie. Donc il s'appelle Barack Obama et il est noir. Alors oui, bon, moi aussi j'ai eu ma petite larme hier en regardant les infos. C'était beau, des scènes de joie avec tous les noirs américains qui étaient fous de joie dans la rue. On voyait des images de Luther King et puis voilà, bon, je me suis dit, ah ça y est, c'est la fin du racisme, la ségrégation, tout ça, c'est fini, les discriminations. Que c'est beau, que c'est beau. Quel grand changement, c'est historique. Mais bon, à part sa couleur de peau, qu'est-ce que ça va changer? Parce que voilà, quand même, il a gagné sa campagne grâce à une campagne publicitaire exorbitante, la plus coûteuse de toute l'histoire. Et cette campagne, elle a été financée en partie par les mêmes personnes qui viennent de réaliser la plus grande escroquerie du monde. Toujours les mêmes, quoi. Donc voilà, bah, les conseillers de Sarko sont sur place pour savoir comment il a réussi à gagner cette élection. Mais à la sortie, bah, les rênes ne changent pas de main. Le pouvoir reste aux riches. Voilà, il y a une nouvelle mascotte et tout. Elle a une autre couleur de peau. Bon, bah, on peut se dire que voilà, le fait qu'il l'ait élu, c'est quand même une excuse pour dire pardon au monde d'avoir laissé faire une guerre qui a fait quand même entre 100 000 et 1 million de morts en Irak. Donc ça fait à peu près entre 30 et 300 fois le 11 septembre. Alors ils se sont dit que ça faisait peut-être un peu beaucoup, oui, parce que bon, Barack Obama, dans l'histoire, a décidé que l'armée américaine allait quitter le sol irakien. Mais bon, ça l'a pas empêché de dire aussi qu'il allait augmenter le budget de la défense. Enfin bref, sur ces belles paroles... C'est une autre info, alors ouais. Bah, la semaine prochaine, ça va être le 11 novembre. Donc ça fera 90 ans que la première grande guerre industrielle de l'histoire est terminée. Alors voilà, bah, mardi, le président ira sur la tombe déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Là aussi, une petite larme. Mais en même temps, alors bah, y a Amnesty International et la plateforme Contrôler les armes qui ont épinglé le gouvernement français sur le flou qui entoure la vente d'armes à des pays comme le Tchad, la Colombie, Israël, alors que la France s'est soi-disant portée candidate à signer un nouveau traité international sur le commerce des armes, bon, interdisant tout transfert d'armes qui alimente les conflits, la pauvreté et qui porte la vente d'armes aux pays qui portent des graves atteintes aux droits humains. Mais bon, voilà, c'est la crise, il faut bien relancer l'industrie, alors on va passer à travers. Par la même occasion, donc à Lyon, il y aura lieu une quinzaine antimilitaristes. Donc il y aura à la librairie de la Griffe qui se situe 5 rue Sébastien Griffe à Lyon. Donc bah, il y aura des débats, des soirées, des projections. Alors ouais, ça c'est intéressant, c'est sur des sujets comme la présence française en Afghanistan ou la guérilla marxiste. Que penser de tout ça? Voilà, bon. C'est à gauche, c'est rouge, mais voilà, c'est la guerre quand même. Et le 11 novembre, il y aura une manif antimilitariste, donc à 14h30, place Maréchal Lyautey, toujours à Lyon. Donc, sur ces bonnes paroles, on va s'écouter un petit morceau de Public Enemy.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Fight the Power, à Saint-Étienne maintenant. Jeudi dernier, les habitants et habitantes de la barre d'Offenbar à Montréno ont empêché l'accès d'un camion grue venu amener du matériel pour installer une antenne relais sur le toit de leur immeuble. Cette action fait suite à un rassemblement d'une centaine de personnes une semaine auparavant pour dire non à l'installation de l'antenne relais. Rassemblement que ni les installateurs ni les bailleurs du HLM n'avaient daigné prendre en compte. Et oui, même à Montréno, les antennes relais ne sont pas les bienvenues, même sur les toits des HLM. Quelques temps auparavant, toujours à Montréno, le bailleur Ayad a renoncé à l'installation d'une antenne relais face à la détermination des habitants de la tour du boulevard Saint-Saëns. En tout cas, jeudi dernier, ni les flics, ni les huissiers, ni le défilé de politique n'a eu raison de la détermination des habitants de la barre d'Offenbar. Les travaux ont donc été suspendus. La promesse d'une concertation entre les habitants, Loire Habitat et des représentants de Bouygues a été faite. Parce que bien sûr, l'opérateur, c'est un grand sympa, c'est Bouygues. Cependant, il ne faut pas trop se leurrer quant au résultat de cette pseudo-concertation, puisque le jour même, dans la tribune Le Progrès, Loire Habitat déclarait vouloir honorer son contrat signé avec Bouygues. De plus, la position de Loire Habitat est claire, puisque 27 de ces immeubles sur la Loire ont déjà été équipés d'antennes relais, dont 7 immeubles à Saint-Étienne. Il n'y a pas de petit profit. Il faut dire que ni la présence d'opposants au projet depuis la première réunion d'information, ni les 180 signatures pour 208 logements de la pétition contre ce projet n'ont empêché Loire Habitat de signer un bail avec Bouygues en mars dernier. C'est à se demander si Bouygues n'est pas un meilleur client que les autres. Toujours Loire Habitat, à Montbrison, c'est plus de 400 signatures qui ont été recueillies contre le projet d'installation de 3 antennes relais sur un HLM de Loire Habitat. À Roche-la-Molière, c'est la commune et les habitants qui ont refusé, il y a 2 ans, l'installation d'une antenne relais de SFR. À la suite de ça, en décembre 2007 et en mars 2008, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les référés de la société SFR. Celle-ci, qui pour une fois perdait la face, s'est dit « Ok, je vais me retourner devant le Conseil d'État, qui devait trancher en octobre. On n'a pas de nouvelles, on espère que c'est une bonne nouvelle. » Enfin, à Lyon, pour la première fois en France, Bouygues Télécom a été contraint par le tribunal de grande instance de Nanterre à démonter une antenne relais située sur une école au nom du risque potentiel sur la santé et du principe de précaution. L'opérateur doit verser 9000 euros aux 3 couples qui avaient porté plainte. Espérons que ce jugement fasse jurisprudence. Il faut dire que déjà au printemps dernier, une antenne relais avait été démontée car elle était située au-dessus de l'école Victor Hugo à Lyon. 2 enfants de cette école avaient développé un cancer. De toute façon, comme disait ma grand-mère, les portables, c'est un outil du grand méchant capital pour nous espionner. Alors, au moins, quand il n'y aura plus d'antenne relais, on se portera toujours mieux.
Best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Toujours à Saint-Étienne, et tiré un petit titre de la tribune Le Progrès que j'avais envie de revenir là-dessus quand même. C'était jeudi ou vendredi dernier dans la tribune. Le titre, c'est « La Stas mise sur les forces de l'ordre ». En effet, des engagements ont été pris entre Saint-Étienne Métropole et la Stas, notamment des rendez-vous hebdomadaires entre la Stas, la police nationale et municipale. C'est ce que nous apprend du coup cet article de la tribune Le Progrès. Jeudi dernier. Dans cet article, on apprend aussi que la Stas a décidé de porter plainte systématiquement pour tout, même pour les infractions au code de la route. Comme disait mon grand-père, la Stas collabo. Après, ce n'est pas nouveau que la Stas collabore. En effet, depuis 1998, la Stas, pour rester en phase avec son temps, a entrepris une politique sécuritaire. Rappelez-vous toutes ces campagnes de moralisation au slogan du genre « Le bus, c'est pas la jungle, doucement les basses » et tous ces trucs un petit peu limites. Depuis quelques années, ils ont aussi installé des caméras dans tous les tramways et même dans certains bus. Et le nombre de contrôleurs n'a de cesse d'augmenter. Et tout ça avec l'argent du contribuable, comme disait mon grand-père. Car la Stas est un service public, ce qui signifie pour moi qu'il devrait être accessible à tous et toutes sans limite de prix. Et oui, les transports devraient être gratuits. Ça, c'est mon papy, mais il ne l'a pas dit. Ici, on a fixé un prix au droit de circuler en ville. Merci la Stas. Autrement dit, C'est pas nous qu'on profite, c'est eux qui font du profit. Alors qu'on s'étonne pas de voir augmenter le nombre de plaintes d'outrage à agents vérificateurs, comme ils disent, pour parler des contrôleurs, puisque les contrôleurs n'ont pas fini de se faire rappeler leur misérable rôle de flic de la circulation.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau papier de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres, ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre, et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares, des porcs armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course, dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux, et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli.
Yo, alors une autre nouvelle locale, c'est La Poste. La répression continue à La Poste. Après le licenciement de Fabrice à Bordeaux, les 2 ans de mise à pied sans traitement de Serge Reynaud à Marseille, la direction de La Poste continue à faire le ménage. C'est maintenant Brigitte Guignon, facteur de Saint-Genis-Laval, déléguée syndicale de la CNT-PTT, à être convoquée par la DOT Courrier du Rhône pour un entretien en vue d'une sanction disciplinaire. On lui rappelle, entre autres, d'avoir, comme ses collègues, laissé du courrier au lendemain de la grève du 23 septembre. À La Poste, depuis qu'il se lance sur le marché, c'est sans pitié.
Voici les cadavres que la police ne veut pas voir, dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir. Un sacré beau papier de dépouilles empilées, ça fait des monceaux de têtes renversées, les yeux et la bouche en cendres, ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre, et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires.
Et voilà, et bon, on va continuer. Alors, une petite nouvelle qui nous vient de Kennedy, donc des suites par rapport au procès sur l'affichage libre. Donc, ça fait quand même depuis 2007 que la municipalité lyonnaise mène de nombreuses enquêtes, pose des amendes, et il y a des procès qui ont déjà eu lieu, donc notamment la péniche de Sony qui était passée en procès en janvier, bon, qui avait été heureusement relaxée en mars. Alors, on aurait pu croire que. Voilà, c'est bon, c'était fini ces histoires, sauf que en septembre, il y a 3 autres assos qui ont reçu des convocations pour des procès, donc Sétang-Chaussée, Ostrobotny et dadadada, toujours pour affichage sauvage, voilà, donc apparemment, voilà, la pub, les 4x3 de partout qui nous pourrissent la vue, bah, il n'y a pas de souci, mais ouais, dès que tu poses une petite affiche à 3 en noir et blanc, bah, ça le fait plus, ouais. Je suis pas d'accord.
Bon, moi je vais enchaîner du coup avec un truc que j'ai tiré de Indie Media Grenoble. Toujours les mêmes histoires, toujours les squats. Encore des expulsions douteuses à Grenoble. Expulsion illégale jeudi dernier à Cessinet d'une maison occupée depuis une semaine. Le propriétaire et ses chiens de garde de la police sont rentrés par effraction au pied de biche pour expulser par la force ses habitants une semaine avant la trêve hivernale. Comme disait ma grand-mère, la propriété, c'est du vol. Toujours à Grenoble, lundi 3 novembre, expulsion pendant la trêve hivernale, ce coup-ci, du squat Boulette à Facettes, situé cours de la Libération. Il faut noter qu'avant d'être occupé par ces joyeux lurons, la maison était vide depuis 18 ans. Les flics ont là encore fait une effraction pour sortir les habitants et habitantes, et ceux-ci ont eu le plaisir, à la sortie, de se faire filmer en gros plan par les flics, parce que les caméras, ça suffit pas. C'est le 7e squat à Grenoble expulsé sans procédure, avec garde à vue à la clé, avec toujours la même astuce, dégradation de biens en réunion. Toujours à Grenoble, une semaine après le procès en correctionnel de 7 squatteurs et squatteuses accusés de violation de domicile, dégradation de biens privés et refus de fichage, le verdict est tombé, relax, en espérant que ça fasse jurisprudence. Enfin, je voulais finir par une petite phrase d'un policier du coup, que j'ai trouvé sur Indie Media Grenoble, qui était présent, un dégradé, qui s'occupait de l'expulsion là, de lundi, qui dit « Je me fous de la légalité, mais aussi, moi aussi, je viendrai avec des armes si on squattait mon bien. » Et je voulais rappeler à ce fifé défenseur de la propriété que les occupations sans droit ni titre sont protégées par la loi et qu'il ne peut y avoir d'expulsion sans décision du tribunal d'instance.
Ni tous ces rêves aspergés de gaz
gaz lacrymogène, ni les gerbes fanées aux pieds, les portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches, usés par la chaîne, par le mépris et le temps, ni les larmes acides des mères, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière. Rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme et le bras.
Vendredi 31 octobre, à Saint-Étienne, la police nationale a honoré ses morts dans la cour du 99 bis. Je tiens à rappeler qu'en France, depuis un an, ce sont plus de 22 personnes qui ont été maltraitées à mort, descendues, fauchées, noyées par la police ou la gendarmerie, sans qu'aucun de ces tueurs ne fasse un seul jour de prison. Alors, comme disait ma grand-mère, qui chante dans le singe des rues, on va pas se contenter de compter les morts.
Les yeux et la bouche en cendres, ça coule de grandes flaques rouges, hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre. Mais pas de lueur pour les cafards, a répondu l'ordre. Et le sang sèche et vire au noir, à l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire, complice des gyrophares, des ports armés aux trousses qui d'une pointe plongent la course dans le caniveau du non-lieu, où un juge nettoie les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en robe de magistrat. La sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Une rumeur provient du bas, échappe au brouhaha. On entend alors clamer, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Milliers de barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre, où fument les carcasses éventrées de voitures calcinées, ni la colère privée d'elle, ni le désespoir tout au bout, des pierres et des cocktails balancés à genoux, ni les barres de fer tordues sur les boucliers de l'ordre, gonflés de noir et d'opprobre, ni les horizons barrés par les corbeaux et les hyènes, ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogène, ni les gerbes fanées aux pieds, les portraits assassinés, ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches, usés par la chaîne, par le mépris et le temps, ni les larmes acides des mères,
ni la sueur, ni le sang. Fidèles auditeurs et auditrices, souviens-toi, il y a 15 jours, nous vous avions parlé du sommet européen sur l'intégration à Vichy. Bref rappel de quoi il en retournait. Lundi dernier, le 3 novembre et mardi 4 novembre, les ministres européens de l'Intérieur et des Affaires étrangères de toute l'Europe, à l'initiative de M. Brice Hortefeux, notre ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, ça sonne bien tout ça, tout ce beau monde, bref, a débattu de leur stratégie pour améliorer les politiques d'intégration des immigrés légaux, comme ils disent. Et nous avons lieu à cette antenne un des nombreux appels à se rendre ce jour-là à Vichy pour perturber un peu leurs gesticulations hypocrites, mais nuisibles. Et visiblement, il y avait au moins une personne qui nous écoutait, puisqu'elle a tenu à se faire savoir sa façon de penser dans un des commentaires du site.
Oui. Donc, effectivement, il y a eu une réponse sur le site du numéro 0 et on tenait juste à faire part de ce commentaire. Alors, on n'a pas très bien saisi l'intégralité du message, à part le fait qu'on a agacé et énervé cette personne. Alors, on est satisfait, et satisfait, je pense, d'avoir énervé cette personne, puisque, voilà, bref. Et je vous cite juste un extrait en fait de ce message auquel on voulait répondre. Alors, ouvrez les guillemets, que les réfugiés de tous bords viennent dans le pays où je me sens apatride, jusque-là tout va bien, je m'en fous, mais qu'ils viennent foutre un climat de guerre, pas moyen, fermez les guillemets. Alors, à mes yeux, c'est l'État qui mène une guerre aux migrants et migrantes, et déclarer l'inverse, moi je trouve ça personnellement un peu tendancieux. Ce qui vous gêne aussi, c'est la globalisation du programme. Alors oui, on insiste et on est vraiment pour l'égalité des droits pour toutes et tous. Pas de papier pour tous ou pas de papier du tout. Et fermeture des centres de rétention et vive la globalisation, quoi. Enfin, vous dites non à l'ouverture de toutes les vannes. Et vous insinuez que ouvrir les vannes, c'est vraiment ouvrir les guillemets. La destruction de la société. Donc alors là, par contre, je fais pas de commentaires personnellement. Je vous laisse l'entière responsabilité de ces propos. Le débat a parfois des limites, même si bon, ça ressemble pas vraiment à un débat. Mais en tout cas, on vous invite à commenter éventuellement ces émissions sur le numéro 0.
Voilà.
Bon, alors pour revenir à Vichy, donc on va essayer de donner un compte-rendu de ce qui s'est passé ces jours-ci. Il y avait une espèce de contre-sommet qui était organisé sur place par un collectif d'assaut, de partis et de syndicats. Ça allait de ATTAC, OPS, en passant par la Confédération Paysanne, la LDH, la CGT, RESF, la LCR, PCF, les Verts, bref, toute la gauche social-démocrate locale. Le programme des festivités commençait dès le dimanche, la veille de l'ouverture officielle du sommet européen. Ont donc eu lieu dimanche une table ronde avec des avocats, médecins, sociologues, apéros, chansons et tout plein de trucs comme ça, mais vu qu'on n'y a pas été, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne va pas en parler. Le temps fort, c'était le lundi soir, avec une manif à 18h, pour ce qui devait se balader dans Vichy, ne pas trop s'approcher du centre des congrès où se tenait le sommet européen sur l'intégration, dont les travaux finissaient en fait à 17h, soit une heure avant le départ de la manif. De cette manif, on en fera un récit détaillé tout à l'heure. Mais tout d'abord, on peut dire que quand même dans l'après-midi du lundi, il y a eu une ou deux manifs sauvages avec à chaque fois 80 à 150 personnes, plus quelques actions médiatiques faites par les désobéissants qui se sont fait arrêter pour en tenue de déportés de la Seconde Guerre mondiale. Pour faire un espèce de rapprochement entre la politique discriminatoire des années 30 et 40 qui sévissait en Europe à cette époque-là et celle pratiquée par l'Union européenne aujourd'hui. Donc voilà. Et on peut dire que un petit mot sur le nombre de flics présents à ce moment-là pendant ces deux jours à Vichy. Alors pour commencer, quelques paroles de passantes vichysoises.
Allez.
Et en ce qui concerne toute la police, tout ça, je trouve que c'est un peu abusé aussi.
Bah, il y en avait beaucoup. Il paraît qu'il y a eu des incidents dans une rue, là, mais je ne sais pas.
Bah, je trouve que c'est assez dérangeant, cette présence policière, et puis le fait qu'on a l'impression d'être surveillé.
On en voit moins qu'hier, parce que hier, on en voyait plus. Hier, quand on est venu, il y en avait davantage.
Eh ouais, il y en avait beaucoup.
Et oui, d'après les sources concordantes, les autorités ont réquisitionné à peu près 600 CRS et gendarmes, plus les policiers de la sûreté urbaine et les flics en civil comme la BAC et l'RG, plus des policiers à cheval, plus une brigade fluviale et enfin 3 hélicoptères, soit en gros 800 hommes. Et on peut vous dire que lundi, ils étaient tous là, y compris l'hélicoptère.
Et au car aussi.
Et au car.
Voilà, donc la police était aussi présente, même au départ des bus, dans quelques villes comme Lyon et Grenoble, par exemple. Alors beaucoup de gens avaient choisi ce moyen de locomotion. Et les flics ont trouvé le moyen de venir contrôler les identités avant même le départ. Prétexte invoqué à Lyon, par exemple, la réquisition du procureur visant des présumés voleurs. Alors, cynisme remarquable, puisque c'est cette même pratique qui permet aux flics d'arrêter des gens autour des gares, parfois autour des foyers d'immigrés. Pratique qui permet de remplir les centres de rétention, faire du chiffre, faire des rafles. Alors voilà, c'était juste pour dire ça. Un refus unanime quand même, en plus d'une médiation de la LDH, a interrompu cette intervention à Lyon. Bref, contrôle d'identité à Grenoble aussi. 20 flics pour un bus de 50. Et recontrôle de gendarmes avant Vichy. En fait, ce qui a fait que beaucoup de gens ont eu beaucoup de retard, et peut-être certaines personnes n'ont jamais pu venir à Vichy.
Bon, en tout cas, la plupart finissent par arriver quand même et la manif peut commencer. Au plus fort, on peut dire qu'il y avait à peu près 2000-2500 personnes. Il y avait des gens d'un peu toute la France, malgré tout, de Vichy, donc de Clermont, de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble, de Paris, Rennes, Marseille et des gens de Belgique et d'ailleurs aussi. Le cortège démarre donc à 6h du soir et avance en direction du centre-ville. Il y a pas mal de gens masqués avec des masques blancs ou des foulards, des écharpes ou autre chose. À la tête du cortège, ce sont les organisateurs SOSDEM, là, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont derrière une banderole qui dit « Collectif pour une Europe des droits de l'homme ». Ils avaient organisé malgré tout un service d'ordre de 150 personnes, mais au final, ce SO a été assez inefficace et c'était pas pour déplaire à une bonne partie des manifestantes qui n'étaient pas venues à Vichy pour faire une petite balade nocturne en ville. Les organisateurs avaient prévu de ne pas tenter d'entrer dans la zone rouge, mais de défiler dans Vichy, puis d'aller jusqu'à la ville voisine de Cusset pour écouter des discours édifiants au cours d'un meeting. Mais plusieurs centaines de manifestants ont choisi de ne pas suivre le parcours prévu et d'aller au contact avec les flics pour essayer de passer leur barrage qui était fait d'hommes en Robocop et de grilles anti-émeutes à travers la rue. Et maintenant, on peut essayer d'écouter ce que ça a pu donner à partir de ce moment-là.
Extra, extra, extra.
Bon, ça a été assez vite. Abrité derrière une banderole qui disait « Les papiers, on s'en fout, plus de contrôle du tout », des gens ont commencé à jeter divers projectiles comme des feux d'artifice, des fumigènes, des cailloux, des bouteilles. Et d'autres ont accroché une corde à la grille et ont commencé à tirer dessus pour la faire tomber. Mais la corde, elle a cassé et les flics ont tiré des lacrymos, des flashballs et ils ont commencé à charger. La manif a alors reculé, elle ne s'arrêtera pas de reculer sous les gaz lacrymogènes, sous les tirs des flashballs toujours, jusqu'à ce que tout le monde se retrouve au lieu du meeting à Cuissé à 3-4 km de Vichy. Au passage, le flashball, qu'est-ce que c'est ? C'est une arme qui tire des balles en plastique et qui est fabriquée ici à Saint-Étienne, bravo. Ceux qui sont du bon côté du manche disent que c'est une arme non létale, ou moins létale en tout cas, qu'un flingue, c'est-à-dire que ça tue beaucoup moins facilement. Bref, pour empêcher les flics de charger trop vite, les manifestantes montent des barricades, faits avec du mobilier urbain, comme disent les urbanistes, c'est-à-dire avec des poubelles, des barrières de chantier, des poteaux et tout ce qui tombe sous la main, mais aussi des voitures mises en travers de la rue et ensuite enflammées. Les manifestantes cassent aussi, parce que casser, ça change plus le monde que de voter. Donc débris de vitrines, débris d'abribus, des voitures, des panneaux publicitaires, etc. etc. Une voiture de flics qui suivait un peu trop l'arrière du cortège s'est copieusement fait caillasser. Et aussi, il peignait des slogans sur les murs, car c'est le blanc et le propre qui rendent silencieuses. Bref, cette manif avait un petit air d'émeute. Donc, partie de 18h, le temps de faire un petit aller-retour en centre-ville et d'avancer avec les CRSOQ, les derniers, finalement, arrivent à QC vers 21h, où les discours vont bon train.
Et oui, donc voilà, c'est un peu le retour, enfin le retour, oui, le retour forcé poussé par la police. Donc le cortège, à l'exception de quelques personnes, s'est ensuite rendu donc à la salle où se tenait le forum social à Cusset, en terre communiste de droite. Et les fourgons policiers y sont allés aussi. Et ici et là, les gens se retrouvent, se ravitaillent un peu. À l'intérieur, le blabla des interventions est interrompu par des gens qui appellent à soutenir les arrêtés. Interrompu si on veut, hein, n'y a pas trop de réaction, pas de réponse. Pendant ce temps, des flics armés de flashball viennent bloquer l'accès à la salle, visiblement motivés pour empêcher les retours au bus ou arrêter d'autres personnes. Bref, ben, les coups de flashball tardent pas à fuser. Et puis là, rebelote, barricade, feu et indignation de la mouvance institutionnelle qui organise, autoproclamé responsable du contre-sommet. Bon, bah là, finalement, les gens ont réussi quand même à regagner les bus et les autos, quoi, enfin, suivant les moyens de locomotion. Voilà.
Donc, oui, en fait, on peut essayer de faire vite fait un petit compte des arrestations et des procès qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des arrestations. Donc les policiers ont quand même arrêté beaucoup plus de gens qu'ils en avaient besoin et souvent sans aucun motif. À notre connaissance, donc, jusqu'à présent, il y a eu 17 personnes qui ont fait de la garde à vue et toutes ont été relâchées. Trois ont eu un procès et ont été condamnées. La plus lourde condamnation, c'est quand même 2 mois avec sursis, de prison avec sursis, juste pour avoir un coup de poing américain dans sa poche. Non, sinon, les autres ont des prisons pour amende, pour jet de cailloux et jet de canettes. Voilà, et puis dans l'après-midi du lundi, quand même, il y avait 11 personnes qui ont été interpellées. Et, ou alors en retour de la manif à Cuissé, mais tout le monde a été relâché sans rien. Donc c'est une répression presque modérée.
D'accord. On peut aussi rappeler éventuellement qu'il existe une caisse de solidarité et que celle-ci fait de nouveau appel aux dons. Voilà, on peut donner peut-être l'adresse aussi. Ça s'appelle caisse de solidarité CO La Lutine
avec deux T, et c'est au 91 rue Montesquieu, 79 007 Lyon, c'est dans le 7e arrondissement. Voilà.
On va peut-être passer directement au mini-agenda.
Ouais, du coup, pour annoncer ce qui va se passer un petit peu dans quelques temps, samedi 15 novembre à Firmini, il y a une journée de mobilisation pour la fermeture des centres de rétention, pour l'arrêt des rafles et des expulsions, pour la régularisation de tous les sans-papiers. Un être humain ne peut pas être illégal. Samedi matin, à Place du Marché, il y aura un stand d'information avec des animations à Firmini. Entre 13h et 15h, des animations Place du Breuil avec les centres sociaux, Firmini Vert et l'association Avatarium. Toujours à Firmini. Entre 15h et 16h, samedi 15 novembre, il y aura une déambulation jusqu'au centre d'animation de Firmini Vert. Jusqu'à 19h, au centre d'animation, il y aura scène ouverte, intervention, exposition, goûter. Et à 20h30, un magnifique concert avec Désert Rebelle et iTone. Tout ça, c'est le samedi 15 novembre à Firmini, journée de mobilisation pour la régularisation de tous les sans-papiers.
Change de micro.
Le 27 novembre, du coup, du côté de l'entrepôt Bellevue à Saint-Étienne, il y aura un concert à la France Pu sur le thème, avec une discussion au début, une projection sur le thème du combat antifasciste en Russie. Donc du coup, ça commencera assez tôt à 19h. Et par la suite, il y aura un concert alors avec L'Oiseau Mort, un petit groupe de hip-hop de Grenoble. Après, il y aura les Camionneurs du Suicide, donc une vieille légende du punk alternatif de je ne sais plus où. Et puis, pour finir, le groupe What We Feel, qui est un groupe de hardcore qui nous vient de Moscou. Donc du coup, voilà, le 27 novembre à l'entrepôt Bellevue, rue de les Galeries à Saint-Étienne.
Et voilà, pour finir, dans à peu près longtemps, c'est-à-dire l'année prochaine, en avril, du 1er au 4 avril, ça commence à s'organiser des actions contre l'OTAN, parce que figurez-vous que l'OTAN va fêter son anniversaire, je ne sais plus lequel, le 40e, je crois, 40e, 50e. Donc voilà, ça va se passer autour de Strasbourg et de l'autre côté de la frontière aussi. Bon, et ben, allez, on vous dit à dans 15 jours. Amusez-vous bien d'ici là.
Ok, et ben voilà, vous venez d'écouter le numéro 0. Merci de votre patience et rendez-vous effectivement dans 15 jours. L'émission sera rediffusée à 17h ce soir.
Cassez tout d'ici là.